souls from the rubble of your love, from the rubble of your love. I'm gonna be stronger than you ever thought I was, you ever thought I was.
Radio Public Santé, votre flash d'actualité.
Votre point sur l'actualité nationale et internationale du week-end avec la rédaction de Ripley News, Maë Barbory. Bonjour Maë.
Bonjour à tous. Manifestation pro-palestinienne. Emmanuel Macron a tenu à condamner avec la plus grande fermeté les blocages dans les universités françaises. Le chef de l'État a affirmé que ces actions empêchaient le débat alors que plusieurs rassemblements et blocages ont eu lieu ces derniers jours sur des sites de Sciences Po ainsi que dans des universités, entraînant dans certains cas l'intervention des forces de l'ordre. Mort de Naël, la justice organise ce dimanche à Nanterre une reconstitution des faits ayant conduit au décès du jeune de 17 ans par un tir de police l'année dernière. Et justement, le fonctionnaire auteur du tir a été annoncé présent sur les lieux du drame qui ont conduit à des émeutes d'une intensité exceptionnelle, on s'en souvient. Justice, toujours une enquête pour violence en réunion avec armes. Elle a été ouverte par le parquet d'Ajaccio après que des G2 aient été lancés sur Éric Zemmour. L'ancien polémiste d'extrême droite a été pris à partie lors de sa déambulation sur un marché en Corse hier. Sur des images vidéo, on voit le président du parti Reconquête frapper l'une des femmes qui l'attaquait. Bonne nouvelle pour Atos maintenant. Les créanciers et les banques ont trouvé un accord pour refinancer le géant informatique français. En effet, le groupe fait face à de grosses difficultés financières et cherche à restructurer sa dette. Malgré sa situation, Atos n'obtiendra en revanche pas autant que demandé dans son nouveau plan d'affaires. Ce fut longtemps une émission emblématique de France Télévisions. Le groupe audiovisuel public a annoncé ce dimanche que l'émission des chiffres et des lettres serait supprimée de la grille dès la rentrée prochaine. L'émission, créée en 1965, était déjà passée d'une quotidienne à un rendez-vous bi-hebdomadaire en week-end, et ce depuis 2 ans maintenant. Et puis enfin, à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Pékin et Paris, le président chinois est attendu cet après-midi sur le sol français pour une visite d'État, la 3e dans l'Hexagone depuis son arrivée au pouvoir. Cette visite sera décomposée en 2 temps. La première journée sera consacrée à des discussions diplomatiques et à des cérémonies officielles, tandis que la journée du mardi sera plus intime et personnelle entre Emmanuel Macron et Xi Jinping, a indiqué l'Élysée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la radio qui vous veut du bien.
I don't wanna move a thing. It
Raphaël Delvolvé.
Près d'un quart des Français auraient aujourd'hui recours aux médecines complémentaires. Appelées parfois médecines non conventionnelles, ces pratiques regroupent une liste de diverses disciplines médicales, pas toujours reconnues en tant que telles par la profession. En effet, les méthodes de traitement employées par les médecines non conventionnelles trouvent leurs origines au courant du 19e siècle et peuvent même être issues de traditions séculaires bien plus anciennes. Bien qu'elles soient considérées comme faisant partie de la médecine, beaucoup de professionnels de la santé émettent plusieurs doutes quant à la véritable efficacité thérapeutique de ces dernières. En France, on ne reconnaît légalement que deux disciplines. L'acupuncture, qui est une branche de la médecine dite chinoise et qui consiste à planter, vous le savez, de fines aiguilles à des points stratégiques du corps humain. L'acupuncture aurait pour bienfait d'aider le patient souffrant de problèmes d'anxiété et de nervosité. La deuxième, plus courante, c'est l'homéopathie. Il s'agit de traitements médicamenteux. Les médicaments homéopathiques sont conçus à partir de produits 100% naturels. La plupart d'entre eux sont en effet issus de plantes. Des médicaments qui par définition agissent de façon moins active que des produits chimiques, mais qui selon les tests de certains médecins, seraient sur certains sujets malades bien plus efficaces. L'homéopathie est aujourd'hui pratiquée par près de 5000 médecins appelés homéopathes. Les médicaments prescrits sont moins chers ainsi que les prix des consultations. Ces deux disciplines sont à ce jour les seules pratiques autorisées dans l'Hexagone, contrairement à d'autres pays européens comme le Danemark, la Suisse ou l'Allemagne, où les médecines complémentaires y sont très répandues.
Pour plus d'informations sur votre actualité santé, consultez le site internet de Radio Public Santé et abonnez-vous gratuitement à la newsletter de notre rédaction. www.publicsante.com.
Parti cœur au bois dormant, le sourire entre les dents, mon silence radio, souvenir fluo. Que reste-t-il maintenant? Kimono et bras ballants.
L'autisme, vous n'allez pas donner qu'un euro. Bah non, c'est ridicule. Ça sert à rien, un euro. Comme si on allait financer la recherche contre l'autisme avec un euro. Mais c'est le grand don pour l'autisme. Avec votre euro, plus celui de votre voisin, plus celui d'un autre, on va la financer, la recherche pour l'autisme.
Ce sont les petits gestes qui font le grand don. Faites un geste sur vaincrelautisme.org.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la radio qui vous veut du bien.
sir. A little souvenir. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. The way you move it here. Just wanna feel it from you. Your novel. I'm wearing your goggles. Virtual, virtual reality. Hey, it ain't what it cost you. It might be a dollar, as long as it shocks you. Memory, electricity. Mind if I steal a kiss? A little souvenir. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. The way you move it here.
Goddamn, I know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Don't be afraid to catch feels.
Don't be afraid to catch these feels.
Run your cup and chase through.
Avec e-santé.fr. Laure de Vic.
Les autres ne parlent pas assez fort. Vous n'entendez jamais le téléphone sonner. Ou on vous reproche de monter trop le son de la télé. Et si c'était votre audition qui avait baissé? Pour le savoir, la première chose à faire, c'est d'aller voir un ORL. Il vous fera un bilan auditif et si besoin, une ordonnance pour des prothèses. Étape suivante, le passage chez l'audioprothésiste, avec qui vous choisirez votre type d'appareil. Car il en existe plusieurs sortes. Le premier du genre, c'est le contour d'oreille. Comme son nom l'indique, il se met derrière l'oreille et il est relié à un embout placé dans le creux du conduit. Le contour d'oreille, c'est l'appareil le plus connu et le plus fiable, mais aussi le moins esthétique. Heureusement, depuis quelques années, on trouve sa version plus discrète, le mini contour open, qui convient surtout aux surdités légères. Et puis, il existe des appareils encore plus petits. Ce sont les prothèses intra-auriculaires. Elles ont l'avantage d'être quasiment invisibles, puisqu'elles sont suffisamment petites pour rentrer totalement dans le conduit auditif. Mais ces appareils dernier cri ne sont pas adaptés à toutes les situations. Oubliez-les si votre conduit auditif est trop étroit ou en cas de surdité trop importante. Les prothèses diffèrent aussi au niveau de leur mode de fonctionnement. Certaines sont analogiques et d'autres, les plus récentes, sont numériques. L'avantage du numérique, c'est d'amplifier les sons faibles et de limiter les bruits très forts. Dans tous les cas, le plus difficile reste d'entendre lorsqu'il y a du brouhaha. Les appareils équipés de filtrage des graves et de micros unidirectionnels améliorent alors la situation. Une fois le type d'appareil choisi, faut-il encore le régler? Les plus simples ont une petite vis. En la tournant, on peut ajuster soi-même le son. Aigu, médium ou grave. Pour les appareils récents, eux, c'est beaucoup plus précis. Le réglage se fait sur ordinateur et c'est l'audioprothésiste qui s'en charge. Plusieurs séances seront alors nécessaires pour que l'appareil soit adapté au mieux à votre oreille. Enfin, n'oubliez pas aussi de demander un devis. Une prothèse peut coûter de 800 à 1800 euros. Un prix qui double, bien sûr, quand on équipe ses deux oreilles. Malheureusement, la Sécurité sociale ne rembourse en général qu'environ 130 euros par oreille. Le reste étant complété plus ou moins bien selon les mutuelles. Si cela peut vous consoler, le prix comprend aussi le réglage et le service après-vente durant toute la durée de vie de l'appareil, qui en général est de 5 à 6 ans. Enfin, n'oubliez pas que si vous entendez mal, rien ne sert d'attendre pour vous équiper. Au contraire, plus vous vous appareillez tôt, et plus il est facile de s'habituer aux prothèses. Alors, inutile de faire la sourde oreille. Allez consulter.
Vous écoutez, écoutez.
La radio qui vous veut du bien.
Radio Public Santé. La radio 100% santé.
Quand le désert avance, c'est la vie qui s'en va. La faute a pas de chance, ou Dieu qui nous fout droit. Et le désert avance, plus personne n'y croit. C'est notre déchéance, l'impossible combat. Quand le désert avance, que veux-tu que l'on soit? Les femmes tout arrêtent danse, elles-mêmes n'y croient pas. Dans leurs souvenirs d'enfance, les chasseurs étaient là. Mais le désert avance, le sable devient roi. Et c'est notre souffrance qui coule entre nos doigts. Dans ces dunes immenses, qui donc y survivra? Mais toi qui viens de France, où l'on oublie qu'on boit, dis-leur ce que tu penses, dis-leur ce que tu vois, dis-leur quelle est leur chance, et qui ne la voit pas, et qu'on meurt d'impuissance, mais qu'on garde la foi, que le désert avance, et l'eau n'arrive pas. Sans cette délivrance, nous n'avons plus le choix. Dis-leur que la nuit tombe sur cette affreuse urgence, et que c'est sur nos tombes que le désert avance.
Actualité santé, Arnaud Bossier.
Les causes de la maladie d'Alzheimer et des autres maladies neuroévolutives sont encore mal connues. Le don du cerveau permet d'aider les chercheurs à identifier les causes des différentes maladies. Donner son cerveau pour la recherche scientifique permet de contribuer à la recherche sur les maladies neuroévolutives et à la découverte de futurs traitements. Il permet aux chercheurs de comprendre les mécanismes biologiques qui amènent au développement des maladies neuroévolutives, de confronter des hypothèses scientifiques expérimentales à la réalité de la pathologie humaine, de rechercher de nouveaux biomarqueurs, étape essentielle pour le développement de nouveaux traitements. Grâce au soutien de la Fondation Vaincre Alzheimer et des autres associations partenaires, la Biobanque NeuroCEB collecte et rassemble dans les conditions appropriées les échantillons de cerveau. Depuis les années 80, les recherches réalisées grâce au don du cerveau ont permis des avancées majeures. Les personnes atteintes de maladies neuroévolutives et les personnes non malades peuvent donner leur cerveau. Les cerveaux non malades servent de témoins pour la recherche et de comparaison avec les cerveaux malades. Vous souhaitez plus d'informations? Rendez-vous sur le site vaincrealzheimer.org.
Radio Public Santé, c'est toutes les 6 minutes.
6 minutes.
Un point sur votre actualité santé. Radio Public Santé.
La radio.
La radio qui vous veut du bien.
Les boissons dites énergisantes. Voici des produits pour lesquels il n'existe pas de définition réglementaire précise. En général, elles désignent des boissons censées procurer une sensation de vigilance accrue et stimuler les capacités intellectuelles et physiques. Elles sont présentées, par exemple, comme permettant de faire le plein d'énergie avant une soirée, au cours d'une journée bien remplie ou en cas de fatigue occasionnelle. L'expression « boisson énergisante » est assez trompeuse, car elle laisse croire qu'elles peuvent être consommées dans le cadre d'une activité sportive, ce qui n'est pas le cas. Elles contiennent trop de sucre et de caféine et pas assez de sel. Elles ne sont donc pas adaptées à la réhydratation sportive et sont complètement différentes des boissons de l'effort, qui, elles, doivent suivre une composition nutritionnelle bien réglementée. Les boissons énergisantes contiennent généralement du sucre pour l'apport d'énergie et de la caféine pour son effet stimulant. Leur teneur en caféine se situe entre 80 mg, l'équivalent d'une grande tasse de café, et 150 mg par canette. La mention « teneur élevée en caféine » doit figurer sur l'étiquette, qui doit également préciser que leur consommation est déconseillée aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes. Parmi les autres ingrédients qu'on trouve souvent dans les boissons énergisantes, il y a la taurine. Celle-ci est un acide aminé naturel, présent dans les aliments protéinés comme la viande et le poisson. Certaines études ont prétendu que la taurine améliorerait les performances physiques, mais cela reste à confirmer. Le glucuronolactone est aussi parfois présent dans ces boissons. Il s'agit d'un composé chimique naturellement fabriqué par le corps humain. Il pourrait aussi améliorer les performances, mais cela reste hypothétique. On trouve également certaines plantes, comme le guarana, qui est riche en caféine, et le ginseng, qui a une réputation de stimulant. Et ces boissons contiennent des vitamines du groupe B, qui participent au bon fonctionnement mental et aident l'organisme à bien métaboliser le sucre. Au final, l'intérêt de ces boissons n'est pas scientifiquement démontré, notamment en ce qui concerne l'efficacité de la taurine, du glucuronolactone, du guarana et du ginseng. En revanche, après avoir étudié la sécurité de ces ingrédients, l'Agence européenne de sécurité des aliments a conclu que la consommation modérée de ces boissons ne présente pas de risque pour la santé. Mais l'agence insiste bien sur la modération, en raison de leur forte teneur en sucre et en caféine. Et elle indique que leur consommation n'est pas recommandée pour les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes sensibles à la caféine. Et qu'il faut éviter de consommer ces boissons lors d'exercices physiques et de les associer à de l'alcool, ces deux comportements étant malheureusement très fréquents. Alors plus que jamais, modération est le mot-clé.
Vous écoutez, écoutez Radio Public Santé.
La radio qui vous veut du bien.
Radio Public Santé, c'est sur le www.publicsante.com.
But thinking nothing, nothing. Aussitôt l'épisode douloureux passé, on recommande aux personnes fragiles du dos de reprendre le plus tôt possible leurs activités et de pratiquer un sport. En effet, il n'y a rien de pire pour le dos que l'inactivité. Muscler son dos est donc un impératif pour diminuer le risque d'en souffrir. Attention toutefois, car si certains sports sont particulièrement bénéfiques, d'autres peuvent au contraire être un supplice pour notre dos. À éviter bien évidemment les sports brusques qui le malmènent, imposent des contorsions et qui provoquent des micro-traumatismes. Sont donc à proscrire pour les personnes fragiles du dos le judo, la lutte, l'aviron, le canoë-kayak, tous les sports de raquettes, tennis, ping-pong, badminton, les poids et les haltères, le trampoline, etc. Au contraire, trois des sports sont particulièrement recommandés, la natation, la marche et le vélo. La natation est le sport par excellence pour ceux qui ont mal au dos. La nage est d'ailleurs une thérapie à part entière pour traiter ces problèmes. Porté par l'eau, le corps est comme en apesanteur. Celui-ci s'affranchit de nombreuses contraintes et les vertèbres ne sont pas comprimées par le poids du corps. La marche est également une très bonne activité physique pour le dos. Simple à mettre en pratique, la colonne vertébrale en profite à tout moment, que les trajets soient longs ou courts et que la marche soit modérée ou rapide. D'ailleurs, si vous pratiquez la marche rapide, veillez à augmenter le nombre de pas plutôt que la longueur de vos enjambées. En effet, plus les enjambées sont grandes, plus vous imposez une torsion à votre colonne vertébrale, ce qui est bien entendu une mauvaise chose pour elle. Enfin, le vélo est un sport que vous pouvez pratiquer quasiment sans risque pour votre dos, à condition d'adopter une position adéquate sur son vélo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à en discuter avec votre médecin, celui-ci pourra facilement vous conseiller et vous recommander des exercices pour muscler votre dos.
La radio qui veut du bien met à l'honneur la dyspraxie, que l'on soit enfant ou adulte, venez en apprendre plus, c'est à suivre dans quelques instants, alors à tout de suite.
Bonjour, je suis là pour parler de moi. Et j'ai pas l'habitude étant donné que avant d'autres le faisaient à ma place. Mais là je sais pas, j'ai l'impression qu'on m'oublie. Je prends pas mal, hein, au contraire. Et puis le plus important au fond, c'est que moi, je les oublie pas les gens. Je continue à être là, comme avant en fait. Enfin bref, je sais très bien vous trouver. J'y suis aussi. À très vite. Le sida.
Pour le faire taire, rendez-vous sur aide.org.
Radio Public Santé, 50% actualité santé, 50% musique. Radio Public Santé,
la radio qui vous veut du bien.
Il est 8h du soir et les larmes me montent. Je me demande si j'ai perdu ton regard. De toute façon, y'a que moi qui compte. T'as les yeux tristes, même quand tu souris. C'est ce qui me rappelle que j'ai tort. Et j'aimerais te dire que c'est fini. Mais je recommence encore. Alors j'aimerais que tu me pardonnes. Pardonne-moi si j'en fais des tonnes. Moi je sais pas comment ça fonctionne. J'ai les yeux qui coulent tous les jours un peu trop. J'aimerais que tu me pardonnes. Pardonne-moi si parfois je déconne. Même si je sais que plus rien ne t'est.
La dyspraxie est une maladie handicapante peu connue qui touche 3-6% des enfants. Elle se caractérise par des troubles de l'automatisation du geste. Chez le dyspraxique, chaque acte doit être réfléchi. Au quotidien, se laver les dents, s'habiller ou faire du vélo sont compliqués et demandent beaucoup plus d'énergie pour être exécutés que chez la majorité des enfants du même âge. Les dyspraxiques sont donc maladroits, se fatiguent vite et sont souvent traités de paresseux. Vous comprendrez que ces symptômes passent souvent inaperçus, mais que leur diagnostic est posé généralement après des difficultés scolaires. La dyspraxie d'origine motrice revêt différentes formes et localisations avec des dénominations particulières pour les symptômes les plus fréquents. Les troubles peuvent être moteurs avec des enfants ayant des difficultés pour courir ou incapables de franchir plus de 2 ou 3 obstacles consécutifs. À l'école, les troubles commencent à être perçus au niveau des dessins qui sont très approximatifs, mais s'accentuent avec l'écriture cursive. L'enfant n'arrive pas à attacher les lettres et 2 lettres consécutives peuvent avoir des tailles très différentes. Ce trouble très fréquent est appelé dysgraphisme. On rencontre également chez les dyspraxiques des problèmes oculomoteurs se traduisant par des enfants perdus sur une page de lecture, obligés de suivre leur texte mot à mot, et pour qui l'exercice de copie est presque infaisable. Le dyspraxique a des difficultés à se repérer dans l'espace. Il semblerait qu'un certain nombre de dyspraxiques aient été des prématurés, mais on en rencontre aussi chez les enfants à haut potentiel dits précoces. La cause génétique a été écartée, mais en l'état actuel de nos connaissances, aucun facteur favorisant réel n'est vraiment retenu. La dyspraxie sera confirmée par un pédiatre ou un neurologue. La prise en charge devra faire intervenir, selon les cas, psychomotricien, ergothérapeute et psychologue. Le dyspraxique sera généralement scolarisé dans une classe normale, avec pour certains une auxiliaire de vie scolaire. Ces enfants, qui, comme toute personne porteuse d'un handicap, vont développer des compensations et très souvent vont vous surprendre par leur vivacité d'esprit. Un diagnostic précoce de la dyspraxie permettra à l'enfant de mettre une étiquette sur les troubles dont il souffre et facilitera sa reprise de confiance en lui. La dyspraxie n'empêchera pas l'enfant d'accéder à des postes à haute responsabilité quand il sera adulte, car les dyspraxiques sont souvent très intelligents. Pour tout renseignement, vous pouvez vous rendre sur le site rebondis.fr.
Vous écoutez
la radio
100% santé. Radio Publique Santé.
We'll be right back.
Kriegsminister gibt's nicht mehr. Und auf keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden. Seh die Welt in Trümmern liegen. Hab einen Luftballon gefunden. Denk an dich und lass ihn.
Harcèlement scolaire, un sujet délicat qui ne doit pas pour autant rester tabou. Avec l'expansion des réseaux sociaux, les formes de harcèlement se diversifient, sont de plus en plus violentes et suivent nos enfants ou nos jeunes jusqu'à la maison. Lorsque des signes évocateurs comme la phobie scolaire, l'appréhension du dimanche soir, des affaires détériorées ou un changement de comportement radical apparaissent, vous ne devez pas hésiter à aborder la question avec votre enfant, même s'il est difficile de trouver les mots justes. Se rendre à l'écoute, sans forcer la parole et ne pas minimiser les propos de votre enfant sont de base pour l'aider progressivement à se confier à son rythme et au moment opportun pour lui. Ensuite, votre premier réflexe ne doit pas être d'agir à la place de votre enfant auprès des enseignants ou des parents, ce qui pourrait renforcer le harcèlement. Il est préférable de donner des clés à votre enfant pour qu'il arrive à se défendre et à répliquer devant son harceleur afin de faire tomber sa position dominante. Un soutien entier de votre part peut également permettre à votre enfant de sortir de la posture de victime dans laquelle il peut s'être enfermé. Mais quand le harcèlement est trop présent, de nature à menacer l'intégrité physique de votre enfant, il faut alors en parler au conseiller d'éducation et au chef d'établissement. Parfois, d'autres interlocuteurs sont salutaires. Pour l'enfant, en se confiant à son infirmière scolaire, par exemple, il peut trouver des ressources psychiques pour dénoncer lui-même son ou ses harceleurs et reprendre peu à peu confiance. En dernier recours, enfin, vous pouvez changer votre enfant d'établissement, en cas de pensée suicidaire notamment, mais ce n'est souvent pas la solution à privilégier, car le schéma peut se répéter et le harcèlement continuer en dehors du contexte scolaire. Aussi, n'envisagez cette solution que si toutes les stratégies précédentes sont un échec et que l'équipe pédagogique se révèle incapable d'agir.
C'était votre chronique psychologie. Réécoutez cette chronique sur internet www.publicsanté.com.
And you can dance for inspiration. Come on.
complet sur l'information, écoutez Replay News, la radio de l'info, toutes les 5 minutes. Autour de l'actualité nationale et internationale, nos 45 journalistes experts vous parlent 24 heures sur 24 de l'actualité sportive, high-tech, technologie, immobilier, juridique. Replay News, la radio de l'info, toutes les 5 minutes, c'est sur votre smartphone ou tablette avec l'appli Replay News et sur replaynews.net. Santé.
La radio qui vous veut du bien.
I'm l'avouer, on en a assez peu entendu parler. Et pourtant, les anxiolytiques augmenteraient le risque de mortalité. C'est une étude canadienne qui vient de le démontrer après avoir suivi plus de 14 000 patients âgés de 18 à 102 ans. Une vaste étude qui aura duré 13 ans et qui aura surtout permis de montrer que durant cette période, chez les patients suivant un traitement, la mortalité passait en moyenne de 11 à 16%. Alors, quelles en sont les raisons? Eh bien, il n'existe pas une, mais plusieurs réponses. D'abord, c'est bien connu, les anxiolytiques augmentent le temps de réaction. Un défaut d'anticipation qui conduit souvent à des accidents de la route, mais aussi domestiques. Surtout chez les personnes âgées, où la coordination psychomotrice est altérée, ce qui a pour effet de multiplier les chutes graves. Il est bon de savoir également que ces médicaments ont souvent des effets négatifs sur le système respiratoire et qu'ils peuvent aggraver des maladies pulmonaires déjà existantes. Mais attention, les anxiolytiques ne peuvent pas uniquement être tenus pour responsables, car à la base, leur prescription résulte souvent d'un mal-être ou d'un problème de santé qui peuvent eux-mêmes directement augmenter le risque de mortalité. Mais une chose est sûre, il n'est pas recommandé d'en consommer sur le long terme. Rappelons quand même que dans ce genre de traitement, seules les prescriptions de votre médecin ont valeur de conseil.
C'était votre chronique traitement. Réécoutez cette chronique sur Internet